Il est 8h38.
France Inter, le 6-9 de l'été. Intervenez.
Philippe Martinez est toujours avec nous et il répond à présent aux questions des auditeurs de France Inter. Benjamin est en ligne avec nous. Bonjour Benjamin.
Oui, bonjour France Inter. Bonjour Monsieur Martinez.
Bonjour.
Êtes-vous au courant que Emmanuel Macron a été élu sur un programme de l'assouplissement du droit du travail par 65% des Français et qu'il ne fait qu'appliquer son programme? Et dans un pays où on a 8 millions de pauvres et de chômeurs, est-ce qu'on peut pas envisager de changer une méthode qui ne marche pas?
Merci pour cette première question, Benjamin. Réponse de Philippe Martinez.
Je vais répondre à Benjamin, parce qu'il y a deux questions en fait.
Il n'y a pas de surprise, il a été élu sur un programme.
Je connais beaucoup de gens, de salariés, de citoyens qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour, mais qui ont voté pour faire barrage au Front National. Et donc, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, je pense qu'Emmanuel Macron et son gouvernement devraient faire preuve d'humilité, en ce qui concerne les résultats de ces élections. On ne va pas y revenir, mais le taux d'abstention, le nombre de bulletins blancs et nuls, et ce que je viens de préciser d'entrée, plus une surreprésentation à l'Assemblée nationale de son mouvement, fait que...
Ils ont été élus, hein, c'est des députés élus à l'Assemblée nationale.
Mais on ne conteste pas l'élection.
Ouais.
Mais
ça veut dire quelque chose.
On ne conteste pas l'élection, on n'a jamais contesté une élection. Mais il faut écouter aussi et regarder ce que dit une élection. Parce que sinon, on peut dire n'importe quoi. Donc il n'a pas été élu sur l'adhésion à tout son programme, par 65 ou 66% des Français. Déjà au premier tour, beaucoup de citoyens ont voté pour lui par défaut. Donc ce n'est pas une adhésion à tout son programme. La deuxième chose, c'est que je l'ai précisé, le lien entre droit collectif, code du travail et réduction du chômage, c'est un leurre. Et c'est pas la CGT qui le dit, c'est la Banque mondiale. Vous voyez, à la Banque mondiale, je sais pas s'il y a beaucoup d'adhérents à la CGT, mais enfin, en tout cas, c'est pas proche de la CGT. L'OCDE, qui est un organisme international, qui dit il n'y a pas de connexion entre garantie collective et réduction du chômage. Et d'ailleurs, dans de nombreux pays au monde où il y a très peu de garantie collective, eh bien, il y a beaucoup de chômage, ou alors c'est le développement du travail informel, de la précarité, etc. etc.
Ce n'est pas parce que vous instaurez un barème au prud'homme que ça va rassurer l'employeur et que ça va l'inciter à embaucher, c'est ce que vous dites.
C'est exactement. Je pense qu'il y a besoin de règles et beaucoup de petits employeurs demandent des règles, peut-être mieux adaptées à la taille de leur entreprise. Ça, c'est un autre sujet. Mais globalement, cette loi, elle va favoriser les grands groupes et mettre de côté les salariés et les petites entreprises. Beaucoup de petites entreprises demandent des garanties collectives. Les conventions collectives, ça veut dire quelque chose. Parce que s'il n'y a plus le même droit selon les entreprises, c'est la loi de la jungle. Et donc, c'est la loi du plus fort. Et vous savez qu'en général, c'est les grands groupes qui gagnent à ce jeu-là.
Denis a une question pour vous, Philippe Martinez. Bonjour, Denis.
Bonjour, merci de prendre ma question. Donc, j'aimerais poser la question suivante à M. Martinez sur le compte pénibilité. Édouard Philippe a annoncé le 8 juillet, il me semble, le remplacement du compte pénibilité par un compte professionnel de prévention. Donc, avec ce mot, disparaissent deux cotisations patronales, ce qui va ravir le MEDEF à mon sens, et surtout 4 des 10 critères pris en compte pour évaluer la pénibilité. Donc ces personnes devront, s'ils peuvent arriver jusqu'à la retraite, pour pouvoir bénéficier d'un départ anticipé à la retraite, avoir contracté une maladie professionnelle reconnue et dont le taux d'incapacité permanente excède 10%. Bref, il faudra attendre que le cancer se déclare. Donc j'aimerais demander à Monsieur Martinez s'il reste dans une posture de discussion formelle ou si la CGT reprend son véritable sens d'un syndicat revendicatif, non plus de discussion, mais de réelle revendication.
C'est l'esprit même du dispositif, du compte pénibilité qui est remis en cause, nous dit Denis. Vous êtes d'accord avec ça? Et quelle sera votre position
absolument d'accord, j'en ai parlé tout à l'heure. Le fait qu'on remette en cause 4 critères, notamment celui sur les maladies professionnelles, qui en gros, on pourra être déclaré malade à la porte du cimetière, c'est absolument scandaleux. Avec tout ce qu'on a connu ces dernières années, je parlais du scandale de l'amiante, un certain nombre de produits toxiques. Denis a raison de souligner que le grand gagnant, c'est encore le MEDEF, puisqu'on supprime des cotisations patronales qui servaient justement à cette présence. Cette prévention. Et puis, le rôle des CHSCT, je l'ai évoqué, où on ne pourra plus expertiser, on ne pourra plus faire condamner un patron qui aurait abusivement détourné la loi. Alors, la CGT, elle donne rendez-vous à Denis et à des millions de salariés et de travailleurs le 12 septembre pour dire on refuse et la prétendue réforme du Code du travail et la suppression des garanties collectives, mais aussi en matière de pénibilité. Je vais juste préciser que, évidemment, le Premier ministre ne nous a pas appelé, ou en tout cas, ça fait pas partie des concertations. Nous avons appris cette très mauvaise nouvelle par un mail un samedi après-midi, comme quoi il veut nous faire travailler le samedi, voire le dimanche, en nous annonçant qu'il allait réformer le compte pénibilité. Donc, il n'y a pas eu de concertation ni de discussion là-dessus. Hein.
Et ça, c'est un point sur lequel vous ne bougerez pas. C'est une ligne rouge. On n'y touche pas.
Sur le compte pénibilité, oui. Il faut améliorer les critères. Il faut rendre plus simple, mais sans supprimer des critères comme les produits dangereux, voire...
La manutention de charges lourdes, posture pénible, vibration mécanique,
vibration, vous voyez, je pense
risque chimique. Le patron a dit que ce sont des critères trop difficiles à mesurer.
Ah ouais,
pour simplifier une usine à gaz, c'est un peu l'objectif.
Un produit dangereux, on sait ce que c'est. Un travailleur du bâtiment qui est... avec un marteau-piqueur, il sait ce que c'est que les vibrations et la pénibilité du travail. Il faut lui demander.
Question d'Olivier à présent. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Philippe Martinez. Allô ?
Oui, bonjour. Nous vous écoutons.
Oui, voilà, merci d'avoir pris ma question. J'avais une question, c'était à propos du taux de syndicalisation et je voulais savoir comment vous, enfin que ce soit la CGT, la CFDT ou les autres, pouvez augmenter considérablement ce taux. Pour faire comprendre aux salariés que être syndiqué, c'est pas nécessairement voir en le MEDEF une espèce de d'ennemi à tuer, mais simplement un adversaire auquel il faut faire comprendre qu'il y a une force en face et avec laquelle il faut compter pour trouver des points d'équilibre. Ça, c'était ma première question. J'en avais une deuxième, si c'est possible. C'était à propos du partage du temps de travail, sachant qu'on a une productivité qui est énorme. Voilà.
La question de la représentativité, de l'évolution du syndicalisme, elle revient, elle intéresse quand même beaucoup les auditeurs, Philippe Martinez.
Oui, c'est une question intéressante et large. Il y a besoin que les syndicats s'intéressent à tous les travailleurs, notamment les nouvelles formes de ce qu'on appelle les nouvelles formes de travail, aux salariés des petites entreprises. Donc on essaie de se déployer un peu partout dans les entreprises. La représentativité des syndicats, c'est une vaste question. J'écoutais la revue de presse sur les syndicats. Il y a un excellent, je conseille à Nicolas Bétou de lire un excellent rapport du Conseil économique, social et environnemental sur les discriminations.
Nicolas Bétou de l'Opinion, je rappelle.
Sur les discriminations envers les représentants syndicaux, discrimination sur le salaire, discrimination sur la carrière, licenciement, sanctions disciplinaires, etc., etc. Si ça s'arrêtait, je pense que la peur de syndiquer qui évoque 80% des salariés serait plus faible. Il y a besoin, effectivement, aussi que la CGT, les syndicats en général, mais que la CGT fasse plus valoir ses propositions. Nous avons beaucoup de propositions, mais trop souvent, on ne nous cantonne que dans l'opposition la contestation, on traite de syndicats contestataires. Mmh. C'est vrai qu'on conteste, mais on propose. Et ça me fait le lien avec la deuxième partie de la question. Par exemple, on propose la réduction du temps de travail, parce qu'effectivement, vu les niveaux de rentabilité des entreprises, des nouvelles technologies qui permettent de faciliter le travail, eh bien, on peut réduire le temps de travail. La CGT propose de passer la semaine à 32 heures, la référence hebdomadaire à 32 heures, en évidemment appliquant cette mesure selon les catégories socio-professionnelles. On n'est pas pour tout le monde pour la semaine de 4 jours ou pour une semaine de 4 fois 8 heures, parce qu'il faut tenir compte des réalités des métiers, mais il faut réduire le temps de travail. Ceux qui travailleront moins libéreront de la place pour ceux qui n'ont pas de travail,
Stéphanie,
par exemple.
Stéphanie a une question qui va prolonger la discussion. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour, monsieur Martinez. Bonjour. Je voulais vous demander si vous n'aviez pas justement la pression de défendre surtout les régimes spéciaux et les salariés des grandes entreprises et d'oublier complètement un pan de la population. Moi, je travaille dans le service à la personne auprès des personnes âgées. Je suis infirmière, donc on travaille le dimanche avec des primes qui sont assez dérisoires. Il y a très peu de syndiqués et voilà, on a vraiment l'impression que vous êtes complètement absent. Et juste pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'humilité que devrait avoir le gouvernement et le président Macron, parce qu'ils auraient été élus pour contrecarrer le Front National, il faudrait peut-être aussi que la gauche et les syndicats, entre autres, aient un peu d'humilité, parce que toute la classe ouvrière qui vous ont cru, qui ont eu de l'espoir en vous pendant très longtemps, et ben maintenant, ils se tournent vers justement le Front National.
L'appel de Stéphanie de Vannes, que nous avons compris malgré les difficultés techniques. Vous avez entendu ce message, Philippe Martinez?
Un message très clair. Faut pas confondre la gauche et les syndicats, c'est pas la même chose. Hein. Mais bon, on le redira régulièrement. Par contre, Stéphanie a raison, et je le disais, il faut que la CGT s'occupe plus d'un certain nombre de salariés, de nouveaux métiers. Les aides à domicile sont un bon exemple, parce que c'est des salariés qui ont des salaires très très bas, qui sont obligés, qui font beaucoup de déplacements, qui sont obligés d'assumer un certain nombre de frais. La difficulté que nous avons à les rencontrer, c'est que c'est un travail très individuel, évidemment, avec des horaires complètement atypique, mais on fait des expériences. J'étais, par exemple, dans les Côtes-d'Armor il y a peu de temps, où on a réuni une trentaine d'aides à domicile qui réfléchissent comment s'organiser, qui veulent des garanties collectives sur le paiement, par exemple, de leurs déplacements, la prise en compte de leurs heures entre deux consultations, en tout cas deux visites. Ouais, on essaie, mais il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts pour s'intéresser à tous les travailleurs, pas que les salariés non plus. En tout cas, cette légende qui consisterait à dire qu'on s'occuperait que des salariés à statut, quand 95% des salariés, par exemple, sont sous le régime d'une convention collective, vous voyez qu'on défend déjà beaucoup de monde.
Vous êtes très bien implanté encore dans la fonction publique, dans des industries, mais peut-être un peu moins dans la CFDT. Vous avez dépassé
dans le privé, oui.
Dans le privé, oui.
Il faut qu'on fasse des efforts pour aller dans les petites entreprises, parmi ces salariés, les aides à domicile dans la santé privée, par exemple, où nous avons besoin. Mais il y a des salariés qui s'organisent. Il y a eu récemment, par exemple, à Gap, une lutte importante dans une clinique privée où les salariés disent on en a marre et en général on en a marre, on se défend, on gagne des choses et on syndique. Vous voyez, c'est une bonne logique ça.
Dans le conflit de GMS, l'équipementier automobile de la Souterraine dans la Creuse, les salariés bloquent l'usine de Renault dans Lyon depuis le début de la semaine. L'usine a été obligée d'arrêter son activité, de se mettre à l'arrêt hier après-midi. Le gouvernement tente de donner des gages. Est-ce que vous pensez qu'il faut lever le blocage en attendant la décision du tribunal lundi, du tribunal de commerce, ou on continue ?
Écoutez, les salariés ont décidé de continuer et je pense que c'est une bonne chose. Parce que il faut arrêter de souffler le chaud et le froid entre Peugeot, Renault, le ministre de l'économie Le Maire, qui un coup dit blanc, un coup dit noir, un coup PSA dit on n'investit plus. Eux, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la galère. Moi, c'est une usine que je connais très bien, j'y étais 4 ou 5 fois. Il y a un vrai savoir-faire, il y a des gens qui savent travailler. Ce qu'ils veulent, c'est des commandes et une pérennité. Donc ça dépend des deux constructeurs, d'autres constructeurs, du repreneur, qui est souvent absent des discussions, et d'un ministre qui tape un peu du poing sur la table. Quand il s'agit de Renault et Peugeot, il a les moyens de taper même plus fort sur la table parce que l'État est actionnaire de ces deux groupes. Quand ils ont besoin d'argent, on discute moins longtemps. Je vous renvoie à ce qu'avait décidé le précédent gouvernement pour PSA. Donc quand ces grands groupes-là ont besoin d'argent, ça dure beaucoup moins longtemps que quand il s'agit de l'avenir de près de 300 salariés.
Question de Boris à présent qui est en ligne avec nous. Bonjour Boris.
Oui, bonjour à tous. Donc oui, j'aurais une question à poser là. Donc ce sujet du Front Social, donc une coordination qui s'est mise en place au moment de l'entre-deux tours là des présidentielles. Et j'aurais voulu avoir la position de Philippe Martinez sur ce mouvement qui est en fait dans le prolongement de la convergence des luttes de l'année dernière, donc lui debout. Voir s'il était prêt à soutenir et appeler un petit peu dans ce sens-là, à ce que des individus, des collectifs, des associations, des syndicats puissent rejoindre un mouvement et qu'ils puissent aller, en fait, un mouvement de lutte face à un capitaliste du moment.
Philippe Martinez vous répond, Boris.
Oui, Boris, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait besoin qu'on soit clair sur les journées d'action, parce que plus on multiplie les appels venant d'un certain nombre d'organisations, de partis politiques, de fronts divers et variés, plus ça jette le discrédit sur le besoin de se rassembler et se mobiliser ensemble. C'est ce que demandent les salariés, mettez-vous d'accord. Il y a des organisations syndicales. Il y a la CGT qui propose une action le 12 septembre.
Eh bien, vous serez peut-être rejoint par la CFE-CGC au mois de septembre.
Alors, on espère.
La centrale des cadres, pourquoi pas.
C'est pas une question d'être rejoint, c'est qu'il y a besoin de se rassembler pour s'opposer à ce mauvais projet de loi. Donc, tous ceux qui voudront participer, c'est ce qu'on fait tout l'été. On est présent sur le Tour de France, par exemple. On est présent sur les plages à discuter avec les salariés qui travaillent l'été et les citoyens. Eh bien, il faut réussir un grand 12 septembre. C'est ça l'objectif prioritaire.
Merci beaucoup, Philippe Martinez. Merci d'avoir été avec nous sur France Inter et d'avoir répondu à l'invitation de France Inter ce matin.